Paris, livre 3, chapitre 4. L'après-midi de ce même jour, Guillaume fut pris d'un tel besoin de grand air et d'espace que Pierre consentit à faire avec lui une longue promenade dans le bois de Boulogne, voisin de leur petite maison. À son retour du ministère, pendant le déjeuner, il avait conté à son frère comment le gouvernement entendait se débarrasser une fois de plus de Nicolas Barthès. Et tous deux en avaient l'âme assombrie, ne sachant de quelle façon annoncer l'exil au vieil homme, se donnant jusqu'au soir pour trouver la manière d'en adoucir l'amertume. Ils en causeraient en marchant. Puis pourquoi se cacher davantage? Pourquoi ne pas risquer cette première sortie, puisque rien décidément ne semblait menacer Guillaume? Et les deux frères entrèrent dans le bois par la porte des Sablons qui se trouvait prochaine. On était au dernier jour de mars. Le bois commençait à verdir, mais si tendrement que les pointes légères des feuilles n'étaient encore, au travers des massifs, qu'une mousse pâle, une dentelle d'une infinie délicatesse. Les averses continues de la nuit et de la matinée avaient cessé, le ciel restait d'un gris de cendre fine, et cela était d'une exquise fraîcheur, d'une enfance ingénue, ce bois renaissant, trempé d'eau, dans la douceur immobile de l'air. Les réjouissances de l'ami Carême avaient dû attirer la grande foule au centre de Paris, sur le passage des chars, car il n'y avait, par les allées, que des cavaliers et des équipages, de belles promeneuses descendues des coupés et des landaux, avec des nourrices enrubannées, portant des poupons en pelisse de dentelle. Toute la haute élégance du bois, tout le mouvement mondain des jours choisis, où les petites gens n'y viennent point. À peine quelques bourgeoises des quartiers voisins étaient-elles sur les bancs et dans les fourrés, une broderie au doigt, à regarder jouer leurs enfants. Pierre et Guillaume gagnèrent l'allée de Longchamp, qu'ils suivirent jusqu'à la route de Madrid au lac. Là, ils s'enfoncèrent parmi les arbres, ils descendirent le cours du petit ruisseau de Longchamp. Leur projet était de gagner les lacs, d'en faire le tour, puis de revenir par la porte Maillot. Mais le taillis qu'ils traversaient était d'une solitude si calme et si charmante dans cette enfance du printemps qu'ils cédèrent au désir de s'asseoir pour goûter le délicieux repos. Un tronc d'arbre leur servit de banc. Ils purent se croire très loin, au fond d'une forêt véritable. Et Guillaume en faisait le rêve de cette vraie forêt au sortir de son long emprisonnement volontaire. Ah, le libre espace, l'air sain qui souffle dans les branches, tout le vaste monde qui devrait être le domaine inaliénable de l'homme. Le nom de Barthès, de l'éternel prisonnier, revint sur ses lèvres. Il soupira, repris de tristesse. Le tourment d'un seul, frappé sans cesse dans sa liberté, suffisait à lui gâter ce grand air pur, si doux à respirer. « Que lui diras-tu? Il faut pourtant le prévenir. L'exil vaut mieux encore que la prison. » Pierre eut un vague geste désolé. « Oui, oui, je le préviendrai. Mais quel crève-cœur !» À ce moment, dans ce coin sauvage et désert, où ils pouvaient se croire au bout du monde, ils eurent une extraordinaire vision. Brusquement, sautant d'un fourré, un homme parut, galopa devant eux. Et c'était sûrement un homme, mais si méconnaissable, si couvert de boue, dans un tel état d'effroyable détresse, qu'on aurait pu le prendre pour une bête, quelque sanglier traqué, forcé par les chiens. Un instant, éperdu, il hésita devant le ruisseau, le longea. Puis, comme des pas, des souffles ardents se rapprochaient, il entra dans l'eau jusqu'aux cuisses, bondit sur l'autre rive, disparut derrière un bouquet de sapins. Presque aussitôt, des gardes du bois, sous la conduite de quelques agents, se précipitèrent, filèrent le long du ruisseau, se perdirent. C'était toute une chasse à l'homme qui passait, une chasse sourde et rageuse dans le tendre renouveau des feuilles. Sans habit rouge, ni fanfare sonnante de cor. « Quelque vaurien !» murmura Pierre. « Ah, le malheureux !» Guillaume, à son tour, eut un geste découragé. « Toujours les gendarmes et la prison. On n'a pas encore trouvé d'autre école sociale. » L'homme, là-bas, là-bas, galopait. Lorsque, la nuit précédente, Salva, d'une course brusque, avait gagné le bois de Boulogne, échappant ainsi aux agents qui le filaient, il avait eu l'idée de se glisser jusqu'à la porte Dauphine et de descendre ensuite dans le fossé des fortifications. Il se souvenait des journées de chômage qu'il était venu jadis passer en cet endroit, au fond de refuges ignorés, où il n'avait jamais rencontré personne. Et en effet, il n'est pas d'asile plus secret, barré de plus de broussailles, enfoui sous plus d'herbes hautes. Certains coins du fossé, dans les angles de la grande muraille, ne sont que des nids de vagabonds et d'amoureux. Salva, en s'engageant au plus épais des ronces et des lierres, eut la chance de trouver, sous l'obscure pluie qui tombait, une sorte de trou plein de feuilles sèches dans lesquelles il s'enterra jusqu'au menton. Il était déjà ruisselant d'eau. Il avait glissé par la boue des pentes, n'avançant qu'à tâtons, souvent à quatre pattes. Ses feuilles sèches lui furent un bienfait inespéré, une sorte de drap, où il se sécha un peu, où il se reposa de sa course folle au travers des ténèbres mauvaises. La pluie continuait, mais il n'avait plus que la tête trempée. Et il finit même par s'engourdir, par s'assoupir sous l'averse, d'un lourd sommeil. Quand il rouvrit les yeux, le jour paraissait, il devait être 6 heures. L'eau, tombée, avait fini par noyer les feuilles. Il était comme dans un bain d'humidité glacée. Pourtant, il resta. Il se sentait à l'abri de la chasse qu'on allait sûrement lui donner. Pas un limier ne pouvait le deviner là, le corps enfoui, la tête elle-même à demi disparue sous des broussailles. Et il ne bougea pas, regarda grandir le jour. Vers 8 heures, des agents et des gardes passèrent, fouillèrent le fossé des fortifications et ne le virent pas. Comme ils l'avaient pensé, dès l'aube, la battue venait d'être organisée. On le traquait. Son cœur battit à grands coups. Il eut l'émoi du gibier que cernent les chasseurs. Justement, il s'était caché en dessous de la caserne de gendarmerie, dont il entendait les bruits sonores de l'autre côté du rempart. Personne ne passait plus, pas une âme, pas un frôlement dans les herbes. Au loin, seulement, les voix indistinctes du bois matinal, un grelot de bicyclette, un galop de cheval, un roulement de voiture, toute l'oisiveté heureuse, grisée de grand air du Paris mondain. Et les heures coulaient, 9 heures, 10 heures. Depuis que la pluie avait cessé, il ne souffrait plus trop du froid, grâce à la casquette et au gros paletot que lui avait donné le petit Matisse. Mais la faim le reprenait, une brûlure qui lui faisait comme un trou dans l'estomac, d'affreuses crampes qui lui brisaient les côtes sous un cercle de plomb. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il était à jeun déjà la veille au soir, lorsqu'il avait accepté un verre de bière. Son projet était de rester là jusqu'à la nuit, puis de se glisser vers Boulogne, dans les ténèbres, et de sortir du bois par un trou qu'il connaissait de ce côté. On ne le tenait pas encore. Il essaya de se rendormir, n'y parvint pas tant il souffrait. À 11 heures, il eut un éblouissement, crut qu'il allait mourir, et une colère l'envahissait. Tout d'un coup, il sortit d'un bond de sa cachette de feuilles, pris d'une rage de faim, ne pouvant plus rester là, voulant manger, quitte à y perdre sa liberté et sa vie. Midi sonnait. Alors, dès qu'il eut quitté le fossé, il se trouva dans le vaste espace découvert des pelouses de la Muette. Il les traversa au galop, comme un fou, se dirigeant instinctivement vers Boulogne, avec l'idée que la seule sortie possible était de ce côté. Ce fut miracle si personne ne s'inquiéta de cet homme galopant de la sorte. Quand il eut réussi à se jeter sous les arbres, il eut conscience de son imprudence, de cette folie qui venait de l'emporter dans un besoin de fuite. Il trembla, se rasa parmi déjeuner, attendit quelques minutes, avant d'être certain que les agents n'étaient pas derrière lui. Puis, l'œil au guet, l'oreille au vent, avec un instinct, un flair merveilleux du danger, il continua désormais sa route lentement, prudemment. Il comptait passer entre le lac supérieur et le champ de course d'Auteuil. Mais il n'y a là qu'une large avenue bordée de quelques arbres, et il dut déployer une adresse extrême pour ne jamais marcher à découvert, profitant des moindres troncs, utilisant les plus grêles massifs, ne se hasardant que lorsqu'il avait longuement exploré les environs. Une peur nouvelle, la vue d'un garde au loin, le tint encore un quart d'heure aplati par terre, derrière des broussailles. L'approche d'un fiacre perdu, d'un simple promeneur égarant sa flânerie, suffisait à l'arrêter. Et il respira, lorsqu'il put, au-delà de la butte Mortemart, pénétrer enfin dans les fourrés qui se trouvent entre la route de Boulogne et l'avenue de Saint-Cloud. Les taillis y sont épais, il n'avait plus qu'à les suivre pour atteindre, ainsi caché, l'issue qu'il sentait prochaine. Il était sauvé. Mais soudainement, il aperçut à une trentaine de mètres un garde, debout, immobile, qui lui barrait le passage. Il l'obliqua vers la gauche et il trouva un autre garde, immobile aussi, qui semblait l'attendre. Des gardes encore, de 50 en 50 pas, tout un cordon tendu là, comme les mailles du filet. Et le pis fut qu'on avait dû le voir, car un cri léger s'éleva, tel qu'une note claire de chouette, répétée bientôt de loin en loin, à l'infini. Enfin, les chasseurs tenaient la piste. Toute prudence devenait inutile. L'homme n'avait plus qu'à chercher le salut suprême dans la fuite. Il le sentit si bien qu'il reprit tout d'un coup le galop, sautant les obstacles, filant entre les arbres, sans craindre d'être vu et entendu. En trois bonds, il eut traversé l'avenue de Saint-Cloud pour se jeter dans le vaste massif qui s'étend entre cette avenue et l'allée de la Reine Marguerite. Là, les taillis sont plus épais encore. Ce sont les fourrés les plus profonds du bois, toute une mer de verdure en été, où il aurait peut-être réussi à se perdre à la saison des feuilles. Un instant même, il se trouva seul, s'arrêta, écouta avec angoisse. Il ne voyait plus, n'entendait plus les gardes. Les aurait-il dépistés? Un silence, une paix d'une douceur infinie tombait des jeunes feuillages. Puis, le cri léger s'éleva, des branches craquèrent, et il continua sa course affolée, allant devant lui, fuyant pour fuir. Comme il atteignait l'allée de la Reine Marguerite, il la trouva barrée, des agents étaient là, s'échelonnant. Il dut continuer à longer, à remonter l'allée sans quitter les taillis. Mais il s'éloignait maintenant de Boulogne, il revenait sur ses pas, confusément, dans sa pauvre tête qui se perdait, s'ébauchait une dernière chance de salut, galoper ainsi à couvert jusqu'aux ombrages de Madrid, pour tenter la chance de gagner ensuite le bord de l'eau, de bouquet d'arbre en bouquet d'arbre. C'était le seul chemin boisé qui pût mener à la Seine, car il ne fallait pas songer à s'y rendre en traversant les vastes plaines nues de l'hippodrome et du champ d'entraînement. Il galopa, il galopa. Mais, arrivé à l'allée de Longchamp, il ne put la traverser. Elle était gardée, elle aussi. Dès lors, abandonnant son projet de s'échapper par Madrid et la Seine, il fut forcé de faire un crochet le long du pré Catelan. Sous la conduite des gardes, les agents se rapprochaient. Il les sentait qui le cernaient d'une ligne de plus en plus étroite. Et ce fut bientôt la course furieuse, à garde, hors d'haleine, sautant les buttes, dévalant par les pentes, au travers des obstacles sans cesse renaissants. Il franchissait des buissons épineux, il défonçait les treillages. Trois fois il roula, les pieds pris dans les fils de fer des clôtures qu'il n'avait point vues. Et, tombé dans les orties, il se relevait. Il n'en sentait pas la cuisante brûlure, reprenait sa course, comme éperonné, fouetté au sang. Ce fut alors que Guillaume et Pierre le virent passer, méconnaissable, effrayant, se jetant à l'eau boueuse du ruisseau, telle que la bête qui met un dernier rempart entre elle et les chiens. L'idée chimérique lui venait de l'île au milieu du lac, ainsi que d'un asile inviolable, s'il l'avait pu atteindre. Il rêvait de passer à la nage sans que personne l'aperçût, de se terrer là, ignoré, désormais à l'abri de toute recherche. Il galopait, il galopait. Puis, des gardes encore lui firent rebrousser chemin. Il fut obligé de remonter toujours, d'aller tourner au carrefour des lacs, ramené, rabattu vers les fortifications d'où il était parti. Il était près de 3 heures. Depuis plus de 2 heures et demie, il galopait, il galopait. Une allée sablée et mouvante pour les cavaliers se présenta. Il l'enfila à toutes jambes, pataugea dans cette terre détrempée par les dernières pluies. Ensuite, ce fut un petit chemin couvert, un de ces délicieux chemins d'amoureux, ombragés comme des berceaux, qu'il put suivre assez longtemps à l'abri des regards, repris d'espoir. Mais il déboucha dans une de ces terribles avenues larges et droites où roulaient des bicyclettes, des équipages, le train mondain de l'après-midi doux et voilé. Et il rentra dans les fourrés, tomba de nouveau sur des gardes, acheva de perdre toute direction et même toute pensée. Ne fut plus qu'une masse lancée, ballottée au gré de la poursuite qui le serrait, l'enveloppait de minute en minute. Rien n'existait plus que le besoin de galoper sans cesse, toujours plus fort. Des étoiles de carrefour se succédaient. Il traversa une grande pelouse où la pleine lumière lui donna comme un éblouissement. Là, tout d'un coup, il avait senti le souffle ardent de la chasse sur sa nuque, des haleines voraces qui le mangeaient déjà. Des cris retentissaient, une main avait failli le saisir, une ruée de corps piétinait, se bousculait dans le vent de sa course. Et par un suprême effort, il sauta, rampa, se redressa, se trouva de nouveau seul parmi les jeunes et calmes verdures, galopant, galopant. C'était la fin. Il faillit culbuter. Ses pieds brisés ne le portaient plus, ses oreilles saignaient. De l'écume lui souillait la bouche. Un grand souffle de tempête soulevait ses côtes, comme si les bonds de son cœur allaient les briser. Il ruisselait d'eau et de sueur, fangeux, hagard, dévoré de faim, vaincu plus encore par la faim que par la fatigue. Et dans le brouillard qui peu à peu noyait ses yeux fous, il vit soudain la porte d'une remise ouverte, derrière une sorte de chalet caché dans les arbres. Personne n'était là qu'un gros chat blanc qui prit la fuite. Il s'y engouffra, alla rouler dans de la paille parmi des tonneaux vides. Et il y était à peine enfoui qu'il entendit galoper, galoper la chasse, les agents et les gardes lancés, perdant sa piste et dépassant le chalet, filant du côté des fortifications. Le bruit des gros souliers s'éteignit, un profond silence tomba. Il avait mis les deux mains sur son cœur pour en étouffer les battements. Il tomba dans un anéantissement de mort, tandis que de grosses larmes coulaient de ses paupières closes. Après un quart d'heure de repos, Pierre et Guillaume avaient repris leur promenade, gagnant le lac, allant passer au carrefour des cascades pour revenir vers Neuilly, en faisant le tour par l'autre bord de l'eau. Mais une ondée tomba, les força de s'abriter sous les grosses branches encore nues d'un marronnier. Et la pluie devenant sérieuse, ils avisèrent, au fond d'un bouquet d'arbres, une sorte de chalet, un petit café-restaurant, où ils coururent se réfugier. Dans une allée voisine, ils avaient aperçu un fiacre, arrêté, solitaire, dont le cocher, immobile, attendait philosophiquement sous la petite pluie d'été. Et comme Pierre se hâtait, il eut l'étonnement de reconnaître devant lui, pressant également le pas, Gérard de Quinsac, qui se réfugiait là, comme eux, surpris sans doute par l'averse pendant une promenade à pied. Puis il crut s'être trompé, car il ne vit pas le jeune homme dans la salle. Cette salle, une sorte de véranda vitrée, garnie de petites tables de marbre, était vide. En haut, au premier étage, 4 ou 5 cabinets ouvraient sur un couloir. Et rien ne bougeait. La maison sortait à peine de l'hiver. On y sentait la longue humidité des établissements que la disparition de la clientèle force à fermer de novembre à mars. Derrière, il y avait une écurie, une remise, des dépendances, envahies par la mousse. Tout un coin charmant, d'ailleurs, que les jardiniers et les peintres allaient remettre en état pour les parties galantes et l'encombrement joyeux des beaux jours. « Mais je crois que ce n'est pas ouvert ici, » dit Guillaume en entrant dans le grand silence de la maison. Pierre s'était assis devant une des petites tables. « On nous permettra toujours bien d'y attendre que la pluie cesse. » Pourtant, un garçon parut. Il descendait du premier étage, il semblait fort affairé, fouillant un buffet pour réunir quelques petits gâteaux secs sur une assiette. Et il finit par servir aux deux frères des petits verres de chartreuse. En haut, dans un des cabinets, la baronne Ève du Villard, venue en fiacre, attendait Gérard depuis près d'une demi-heure. C'était là qu'ils avaient pris rendez-vous la veille à la vente de charité. Les souvenirs les plus doux devaient les y attendre, car 2 années auparavant, dans la lune de miel de leur liaison, ils s'y étaient délicieusement rencontrés, lorsqu'elle n'osait point encore aller chez lui, et qu'ils avaient découvert ce nid caché, si désert, aux jours hésitants du printemps frileux. Et certainement, en le choisissant pour ce rendez-vous suprême de leur passion finissante, elle n'avait pas cédé seulement à la crainte d'être surveillée. Elle avait eu aussi l'idée poétique de retrouver là les premiers baisers, pour qu'ils fussent les derniers peut-être. Cela était si charmant, ce refuge, au milieu de ce grand bois aristocratique, à 2 pas des larges allées où passait tout Paris. Son cœur d'amoureuse tendre en était touché jusqu'aux larmes, dans la désolation de l'amère fin qu'elle sentait venir. Mais elle aurait voulu, comme aux anciens jours, un jeune soleil sur les jeunes feuillages, ce ciel de cendres, cette pluie qui tombait encore, la tristesse d'un frisson. Et lorsqu'elle entra dans le cabinet, elle ne le reconnut point, si terne, si froid, avec son divan fané, sa table et ses 4 chaises. L'hiver était resté là, une humidité fade, une odeur moisie de pièces sans air, longtemps closes. Des lambeaux du papier de tenture s'étaient décollés, pendaient, lamentables. Des mouches mortes semaient le parquet, et le garçon, pour ouvrir les persiennes, dut se battre avec la crémone. Cependant, lorsqu'il eut allumé la petite cheminée à gaz, installée là pour ces sortes d'occasions, flambante et chauffant vite, la pièce s'égaya un peu, devint plus hospitalière. Ève s'était assise sur une chaise sans même relever l'épaisse voilette qui lui cachait le visage. Toute vêtue de noir, comme si elle eût porté déjà le deuil de son dernier amour, gantée de noir, elle ne montrait d'elle que ses cheveux blonds, encore admirables, un casque d'or fauve débordant de son petit chapeau noir. Et grande et forte, la taille restait mince, la poitrine superbe, rien d'elle n'avouait la cinquantaine menaçante. Elle avait commandé 2 tasses de thé. Le garçon la retrouva, voilée toujours, à la même place, sans un geste, lorsqu'il apporta le thé, avec une assiette de petits gâteaux secs qui devait dater de l'autre saison. Puis, de nouveau, elle demeura seule, immobile, en une sorte de rêverie accablée. Si elle avait devancé le rendez-vous d'une demi-heure, voulant être là la première, c'était dans le désir de se calmer, pour ne point céder au coup de son désespoir. Surtout, elle ne voulait point pleurer, car elle se jurait d'être digne, de causer posément, de s'expliquer en femme qui avait certainement des droits, mais qui tenait à n'invoquer que la raison. Et elle était contente de son courage. Elle se croyait très calme, résignée presque, tandis que, seule encore, elle arrangeait la façon dont elle allait accueillir Gérard, pour le dissuader d'un mariage qu'elle regardait comme un malheur et comme une faute. Elle tressaillit, se mit à trembler. Gérard entrait.